Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Nous sommes au lieu unique, scène nationale de Nantes, pour le rendez-vous annuel du mois de septembre, les Géopolitiques de Nantes, une initiative mise sur pied conjointement avec l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique. Regard sur les États-Unis. Mardi 22 septembre, le président américain Donald Trump prononçait son discours devant la 75e édition de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans ce qui ressemblait très singulièrement à un discours de campagne, Trump a accusé la Chine de Xi Jinping d'abus des droits de l'homme, de violations commerciales et de larges dommages environnementaux. Il a réitéré l'accusation faite à la Chine d'être la seule responsable de l'émergence et de la diffusion de la Covid-19. Appelé par Trump le virus chinois. Le président américain a énuméré ses succès de politique étrangère depuis 2016, parmi lesquels sa rencontre avec le Nord-Coréen Kim Jong-un, la récente formalisation d'un nouveau traité de paix au Moyen-Orient et les actions en cours des États-Unis en termes de commerce et de sécurité nationale contre la Chine et la Russie. Trump a aussi appelé les chefs d'État présents en ligne à l'Assemblée générale des Nations unies de placer leur pays en premier. Il est apparu, Trump, comme un président attaqué à la recherche désespérée de munitions dans sa lutte pour la réélection. En ciblant la Chine et d'autres États comme l'Iran, Trump a poursuivi sa politique d'unilatéralisme. Une confirmation sur le plan domestique de la promesse de 2016 de faire de l'Amérique une priorité. Et en même temps, une cassure dans ce qui pouvait rester de la confiance des citoyens européens envers les États-Unis. Pour résumer ce discours, pas de changement à attendre vers une position plus conciliatrice ou progressive de la part des États-Unis. La priorité de Trump est à sa réélection. Et peu importe les dommages faits aux institutions comme les Nations Unies ou l'Alliance Atlantique. Alors, à quelques semaines de l'élection du 3 novembre, cette question, le monde résistera-t-il à un second mandat de Trump? Pour y répondre, nos invités, Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Et François Clémenceau, rédacteur en chef international au journal du Dimanche et auteur d'un blog intitulé « Trump Power ». Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant d'en venir à la question de savoir si le monde pourra résister à un second mandat de Trump, il sera aussi intéressant d'essayer de comprendre ce que pourra ou non détricoter le démocrate Joe Biden s'il est élu. Mais pour commencer, décryptage, si vous le voulez bien, de la politique étrangère de Trump et bilan de son mandat avant les élections présidentielles. Depuis l'élection de Trump, le monde a changé. Les équilibres mondiaux ont été bouleversés et entériné le recul des relations internationales. Car avec Trump est venu l'abandon du leadership américain, la fin du multilatéralisme, le durcissement des frontières, la compétition commerciale exacerbée, le réarmement, la fragilisation des grands traités internationaux et de la démocratie. Est-ce que nous sommes, comme l'affirment certains, arrivés à un point de non-retour dans l'évolution des relations internationales, voire de recul des relations internationales? Et quel est le lien, finalement, entre la politique de Trump et ce que nous vivons? Est-ce qu'on peut parler de changement ou simplement d'accélération d'une tendance déjà amorcée par les prédécesseurs de Donald Trump? Pascal Boniface.
On peut dire qu'en fait, Trump a réussi de son point de vue. C'est-à-dire que ses objectifs de politique étrangère sont réussis. Il voulait affaiblir ses ennemis, Iran, Venezuela, Cuba. Ils sont vraiment affaiblis. Il veut le faire sans intervention militaire. Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Il ne veut pas intervenir militairement. Mais il veut faire plier ses régimes qui sont tous les trois beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient il y a 4 ans. Il veut se retirer des traités. Il l'a fait. Il s'est retiré des traités. Et il veut également amener sa paix, sa vision de la paix au Proche-Orient. Et de son point de vue et d'un certain point de vue, la récente signature d'un accord de paix entre des pays qui n'étaient pas en guerre, puisque les Émirats arabes unis n'existaient pas lors de la guerre des 6 jours, est aussi un succès. Mais comme toujours avec Trump, ce sont des succès à court terme, parce qu'aucun des grands problèmes n'est résolu. Si les régimes iraniens ou cubains tombaient, je ne pense pas que ça soit le calme, mais il sera plutôt le chaos. Les coûts portés aux institutions multilatérales ont un coût, COUT, qui est déjà perceptible, et je ne suis pas sûr que les États-Unis soient plus puissants qu'il n'était il y a 4 ans, et au contraire, la Chine a accéléré son avance et son rattrapage, du moins son rattrapage, pardon, par rapport aux États-Unis. On peut dire que le slogan de Trump, c'est « Make China Great Again », et non pas « Make America Great Again ». Et donc, sur le court terme, il peut dire qu'il a réussi. Sur le long terme, c'est une catastrophe, pour les États-Unis, mais aussi bien sûr pour le reste du monde. Mais Trump est uniquement dans le court terme et tout ce qui se passera après le 3 novembre n'est pas vraiment son problème.
Marie-Cécile Nave.
Oui, on peut dire que l'ordre international aujourd'hui n'est plus garanti par la puissance américaine. Et j'ajoute à ce qui vient d'être dit auquel je souscris, c'est que les populistes nationalistes, Trump mais aussi Bolsonaro et peut-être d'autres, font la preuve qu'ils sont incapables de gérer les grandes crises internationales, les grands défis planétaires auxquels nous sommes confrontés avec la Covid, la crise environnementale et peut-être d'autres crises à venir. Et ça participe aussi de l'image désastreuse que les États-Unis ont dans le monde. Il y a une étude qui a été faite ces dernières semaines par le Pew Research Center, qui est un centre d'études très sérieux aux États-Unis, qui montre que l'image des États-Unis s'est très fortement dégradée depuis la présidence Trump sur la Covid, sur les immenses mobilisations dans le monde contre les violences policières et contre le racisme, sur le rapport qu'il a aux institutions. Mais j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement inédit dans l'histoire récente, puisqu'en 2007, après, à la fin de la présidence George W. Bush, l'image des États-Unis dans le monde était extrêmement dégradée pour d'autres raisons. Donc il y a peut-être un effet de cycle, mais quand même, avec les grands défis planétaires, les grandes crises que nous vivons et que nous sommes amenés à revivre très probablement malgré le déni de Trump par rapport au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, etc., etc., il y a quand même une empreinte durable et négative du Trumpisme qui va s'ancrer dans le monde et dans les perception qu'on a des États-Unis. Donc effectivement, la Chine, elle trouve un moyen de prendre à son avantage cette évolution avec ce qu'on a appelé la diplomatie du masque, c'est-à-dire la diplomatie post-Covid, de savoir gérer la crise et savoir fournir peut-être en premier un vaccin, savoir distribuer des masques à tous les pays qui en ont besoin, etc., etc. Et puis, il y a des zones géographiques qui ont été largement abandonnées par Trump, ça l'intéresse pas, comme l'Afrique, par exemple. Et là-dessus, la Chine aussi, elle est en train de prendre un avantage très, très sérieux. Donc finalement, diaboliser la Chine, avoir une attitude très nationaliste à son égard, être dans un unilatéralisme constant et dans un nationalisme aussi. Vous avez parlé d'une Chinese virus, il se moque de la Chine, il appelle le coronavirus le Kung Flu aussi. Enfin, il y a une espèce de dérision, comme si c'était pas grave et comme si finalement la Chine pouvait être facilement diabolisée, mais en même temps, ça lui permet à ce pays de, je parle de la Chine, de reprendre un avantage, de prendre un avantage et peut-être bientôt de devenir la première puissance économique mondiale, qui sait, en partie à cause des errements de Trump.
Alors, on reviendra bien sûr sur la question chinoise. François Clémenceau, un commentaire, et je vais peut-être ajouter cette question pour pousser un petit peu le débat. Est-ce qu'il existe une grande stratégie de la part de Trump, un plan directeur?
Oh, je crois que le plan directeur, il est assez basique dans la pensée de Trump, c'est accéder au pouvoir, rester au pouvoir, quels que soient les moyens à utiliser, mais en essayant de profiter du fait que aux États-Unis et depuis la naissance du Tea Party en 2010, il y a un terreau favorable à l'expansion des idées conservatrices ou ultra-conservatrices. Et donc j'allais dire que la politique étrangère de Trump, elle est, on ne se rend pas compte suffisamment à quel point dans le reste du monde, elle naît finalement dans le corpus, dans le terreau de cette Amérique invisible, où finalement la remise en question des élites, la remise en question des médias, des faits, la remise en question de l'opposition en tant que telle, où finalement elle a certainement le droit à la parole, mais on lui conteste toute validité de ses projets ou de ses propos. La remise en cause des services de l'État. Lorsque un président des États-Unis ne fait plus confiance à ses propres agences de sécurité, à ses propres diplomates, lorsque on remet en question les décisions de justice dans son propre pays, dans une démocratie où l'État de droit est censé être la valeur cardinale de la démocratie américaine. Quand vous alignez tout cela, ça crée dans cette société américaine le ressort pour pouvoir dire « je fais ce que je veux parce que j'ai ce mandat » et forcément l'impact, on le voit après sur le reste du monde. Pourquoi ? Ben parce que on va pouvoir remettre en cause les alliances, on peut remettre en cause les traités internationaux, on peut privilégier telle ou telle séquence de court terme, comme le disait Pascal, et ça crée, si vous voulez, un désordre. L'imprévisibilité se rajoutant à ce désordre fait que l'Amérique, oui, elle est peut-être plus grande dans les yeux de ceux qui ont élu Trump, mais elle est de plus en plus seule sur la scène mondiale parce qu'elle se recroqueville sur cette Amérique des 40% qui a réussi à porter au pouvoir Donald Trump, avec le risque évidemment que par le biais d'une justice plus aux ordres aujourd'hui, on parle de la Cour suprême, il puisse rester effectivement 4 années de plus.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, plus grand désordre, est-ce que la stabilité internationale est aujourd'hui, Pascal Boniface, plus menacé qu'avant? Et après ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu du, puisque vous l'évoquiez, la question démocratique, les reculs démocratiques. Quelle est finalement la part de responsabilité de Trump dans l'affaiblissement du modèle démocratique ou à tout le moins dans la propagation d'une insécurité démocratique dans le monde?
Alors sur le deuxième point, je pense que c'est plutôt Trump est plutôt un effet que la cause. Enfin, c'est un peu l'œuf et la poule. L'arrivée de Trump au pouvoir, c'est un affaiblissement de la démocratie. C'est que les gens, comme l'a dit François, ne font plus confiance aux institutions, à la parole officielle. Et c'est vrai que quand les officiels mentent, après, il est beaucoup plus difficile de leur faire confiance. Et donc il y a ce recul effectivement des démocraties que l'on voit aux États-Unis, mais que on a vu au Brésil, en Inde, c'est aussi très inquiétant. Et il y a de nombreux pays, les Philippines, des pays qui étaient parvenus à des systèmes démocratiques intéressants et vraiment novateurs sont en profond recul depuis une demi-douzaine d'années. Depuis, enfin, pas seulement l'élection de Trump, une fois, Trump fait partie de ce mouvement et comme c'est le président de la première puissance mondiale, forcément, ça a aussi un impact sur les autres pays. Donc, ça sert quelque part de modèle. Et pour revenir à votre première question sur le système international, il est évidemment profondément déstabilisé. Quand, une fois encore, la première puissance mondiale ne croit pas au multilatéralisme, celui-ci, forcément, est affaibli. Alors, on ne peut pas dire que tout ce qui va mal dans le monde est de la faute de Trump. Ça serait caricatural. Mais il en a sa large part. L'ensemble des institutions multilatérales ont été attaquées. Il s'est retiré de l'UNESCO. Il s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat. Il s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Il attaque l'OMC, qui est en danger, qui risque d'être paralysé, tout simplement.
Retrait de l'OMS ?
Retrait de l'Organisation mondiale de la santé en pleine crise de pandémie, c'est vraiment se retirer de la caserne de pompiers pendant qu'il y a un incendie. Donc tout ça parce que c'est America alone. Et c'est vraiment l'Amérique seule. Et ça plaît à ses électeurs. Toute la politique étrangère de Trump, elle est faite pour ses électeurs. Parce que ses électeurs pensent que toutes ces institutions sont extrêmement coûteuses et très souvent anti-américaines. Que l'ONU est peuplée de dictateurs, que l'OMS, ça coûte des milliards et des milliards. Donc, dès qu'il se retire d'une institution ou qu'il attaque une institution internationale, ça plaît à ses électeurs parce qu'ils sont profondément anti-système international, qu'ils voient comme une entrave à la souveraineté américaine. Alors, Trump n'a pas inventé l'unilatéralisme. Celui-ci existait déjà. Il y a quand même une part d'ADN unilatéraliste très fort. C'est quand même Bill Clinton, considéré comme multilatéraliste, qui disait que les États-Unis étaient la seule nation indispensable. Mais il l'a poussé. Et donc Biden ne pratiquerait pas une diplomatie norvégienne s'il arrivait au pouvoir. Mais en tous les cas, Trump a poussé aux extrêmes l'unilatéralisme. Rappelons quand même que George Bush, qui n'était pas vraiment très multilatéraliste, avait fait réintégrer les États-Unis dans l'UNESCO, dont Trump est sorti il y a 2 ans.
Alors, America alone, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Pascal Boniface, et je me tourne vers vous, Marie-Cécile Nave. Quelle est finalement la part des questions intérieures qui expliquent les choix de Trump? Est-ce qu'on peut parler de moyens diminués, des exercices de la puissance, parce que l'Amérique a des problèmes à résoudre en interne?
Oui, elle est énorme, la part de stratégie intérieure dans la politique étrangère des États-Unis. Et je commencerai par le fait de dire qu'il est obsédé par détruire l'image et l'héritage de Barack Obama. Il va absolument faire le contraire de Barack Obama, à la fois faire le contraire, mais aussi à obtenir le prix Nobel de la paix.
Cette obsession n'a pas diminué au fil du premier mandat.
Elle n'a pas diminué. Donc la sortie de l'accord sur le climat, la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien, la dérégulation immense de toutes les avancées en matière de protection de l'environnement sur le sol américain et l'image que ça donne à l'international, le refus du multilatéralisme. Alors il y a quand même des choses qui restent un peu sur le désengagement progressif des troupes militaires au Moyen-Orient. Cette obsession, et obsession, je l'utilise à dessein, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a presque un aveuglement par rapport à la réalité des choses, parce qu'il veut absolument détruire cet héritage. Ensuite, une partie de la politique moyen-orientale, elle est guidée effectivement par des enjeux électoralistes intérieurs, comme en particulier vis-à-vis d'Israël. Et parce qu'il faut donner des gages toujours à un électorat évangélique blanc qui l'a soutenu à plus de 80% en 2016, et ça semble être à peu près dans ses proportions aussi cette année, et pas guidé par des enjeux de paix ou de résolution des conflits sur le terrain, même si c'est ce qui est affiché, évidemment. Et puis, il y a aussi il y a certaines obsessions intérieures qu'il veut imposer au monde, par exemple la limitation des droits des femmes. La limitation des droits des femmes qui se retrouve dans le fait de couper les subventions fédérales à toutes les associations qui, dans le monde, ont une de leurs activités consistant à informer les femmes ou à aider les femmes dans l'accès à la contraception et à l'avortement, y compris dans des situations de guerre, de conflit, de viol de guerre, etc. Et puis à l'ONU, l'année dernière, les États-Unis ont exigé au Conseil de sécurité qu'on raye la mention santé sexuelle et reproductive dans les textes qui parlent des viols de guerre dans le monde. Donc il y a aussi une volonté d'imposer au monde un certain nombre de valeurs qui correspondent pas à la majorité de l'Amérique, mais qui correspondent à une partie de l'électorat qui est extrêmement crispée sur les enjeux conservateurs, voire ultra-conservateurs, et la probable nomination demain ou aujourd'hui ou dans les prochains jours de Amy Coney Barrett comme 9e juge à la Cour suprême l'illustre elle aussi.
François Clémenceau.
Non, je suis effectivement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je rajouterais même que, pour revenir à ce que disait Pascal tout à l'heure sur justement l'impact que ça a sur les démocraties en dehors des États-Unis, il y a quand même un phénomène d'émulation, parce que on se dit, si Trump le fait, moi aussi je peux le faire. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a des prises de décision qui concernent le changement de la société américaine, où on va effectivement vers plus de restrictions, vers une pensée un peu unique, conservatrice, qui s'imposerait au politiquement correct des années libérales aux États-Unis, à chaque fois qu'on essaye de réduire la justice, qu'on essaye de faire taire les voix dissonantes dans son propre camp, à chaque fois qu'on introduit ce procès, c'est nous contre eux qui ressemblent en politique intérieure comme en politique étrangère à une forme de comportement mafieux, eh bien oui, ça a un impact sur le comportement des autres dirigeants à travers la planète, qui ne sont pas forcément des populistes, mais qui se disent, voilà un homme fort qui prend les moyens pour faire ce qu'il veut, eh bien moi je peux faire pareil. Et c'est pas anodin de voir qu'on a cité Bolsonaro, on a cité Narendra Modi, on a cité Duterte aux Philippines, mais en Europe de l'Ouest, regardez depuis 4 ans à quel point les dirigeants d'extrême droite ont pu se servir finalement de cette rhétorique ultranationaliste américaine pour dire, regardez, même la plus grande démocratie du monde a ce genre de discours qui est admis, dont on peut parler parce qu'il y a un débat. Pourquoi est-ce que chez nous, on serait stigmatisé, rejeté, comme si on était la peste? Eh bien, les grands succès de l'extrême droite en Europe depuis 4 ans, notamment par exemple en Allemagne et en Europe centrale et orientale, on peut dire qu'elles sont aussi une conséquence. Bien entendu que ce n'est pas Trump tout seul, mais regardez les ambassadeurs que Trump a nommés en Europe, regardez celui qu'il a nommé en Allemagne et dont les principales missions étaient de resserrer les contacts avec les mouvements nationalistes ou avec les mouvements d'extrême droite. Oui, ça a un impact, ça n'est pas de la politique étrangère au sens diplomatique du terme, mais c'est une guerre d'influence où finalement les nationalistes gagnent du terrain. Qui est l'un des principaux conseillers, l'éminence grise de Trump, et qui écrit ses discours très importants? Stephen Miller, sur sa table de nuit, son livre de chevet, c'est Maurras. Donc, oui, l'idéologie nationale ou nationaliste, elle fait partie de cette droite qui est au pouvoir aux États-Unis maintenant, qui certes est minoritaire en voix dans le pays, mais qui, grâce à l'alchimie du collège électoral, a réussi pendant 4 ans à imposer une forme de discours qui se propage à travers le monde.
Steve Miller, il est là depuis le début, c'est un des rares à pas avoir subi le turnover des équipes.
Donc la présidence Trump encourage le déclin de la démocratie dans le monde, comme aux États-Unis. Ce chiffre, pour prolonger le débat et terminer cette première partie d'émission, simplement pour signaler que, d'après une étude, en janvier 2020, la proportion de pays de plus d'un million d'habitants qui sont démocratiques a chuté en deçà de 50% pour la première fois depuis la fin de la guerre froide. Marie-Cécile Nave, Pascal Boniface et François Clémenceau, on vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
À quelques semaines de l'élection du 3 novembre, cette question, le monde résistera-t-il à un second mandat de Trump? Nous retrouvons nos invités, Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, et François Clémenceau, rédacteur en chef international au Journal du Dimanche et auteur d'un blog intitulé « Trump Power ». Le recul des États-Unis n'a pas pour autant renoncé à leur hégémonie militaire. Est-ce qu'on peut parler de paradoxe? Le constat est que les quatre années de Trump ont consacré l'accroissement des budgets militaires américains et le renforcement de la sécurité des États-Unis, notamment par le durcissement des frontières. Quelques chiffres pour situer le débat. Le budget militaire mondial équivaut en 2019 à plus de 1900 milliards de dollars, soit 75% de plus qu'en 1999, en dollars constants. C'est le plus haut niveau atteint depuis la fin de la guerre froide. Les États-Unis, c'est 38% des dépenses militaires mondiales, 14% pour la Chine. Pascal Boniface, en quoi les États-Unis sont-ils responsables de la recrudescence de l'armement dans le monde? Et quelle ironie finalement aussi que la plus grande puissance du monde, avec autant d'argent investi dans le secteur de la défense, n'ait pu faire face à la crise pandémique?
Oui, effectivement, ceci explique peut-être cela, c'est qu'il y a une très forte puissance militaire, en même temps un système de santé qui, dans certaines zones, est proche du tiers-monde. On disait que l'URSS était une superpuissance avec des fusées, une autovolta avec des fusées. Les États-Unis sont, dans certains points, un peu de la même façon. Alors, effectivement, le budget militaire américain, c'est 738 milliards de dollars. Lorsque Trump a pris le pouvoir, c'était 600 milliards. Il a augmenté de deux fois le budget militaire russe, le propre budget militaire américain, puisque la Chine, c'est environ 200 milliards, et la Russie, 60 milliards de dollars. Et en même temps, il se retire de tous les traités de désarmement. Force nucléaire intermédiaire, cieux ouverts, l'accord sur l'Iran, on en a parlé. En quoi les États-Unis sont responsables de la course aux armements? De trois façons. La première, c'est leur propre augmentation, significative. La deuxième, c'est que dès que Trump fait un geste diplomatique, il faut qu'on achète des armes. Il met en cause l'OTAN, et donc, achetez des armes américaines, augmentez votre budget militaire, sinon je me retire de l'OTAN. On signe un deal avec les Saoudiens, mais en même temps, il y a 100 milliards de commandes, et on oublie qu'à et on dit Khashoggi, c'est pas grave, parce qu'il y a eu 100 milliards de commandes. On signe un deal avec les Émirats Arabes Unis, mais il faut que les Émirats Arabes Unis achètent des F-35. Et donc, à chaque fois qu'il y a un deal, les pressions sur le Japon ou sur la Corée du Sud pour augmenter leurs dépenses militaires, et augmenter les dépenses militaires, c'est-à-dire acheter américain. Et troisième raison, c'est que, comme Trump bouscule et rend la situation plus incertaine et plus insécure un peu partout, les gens s'arment. Et la course aux armements, c'est quoi? C'est que si ton voisin augmente son budget militaire, tu en fais autant et tu essayes de suivre la course, quitte à t'épuiser et quitte, etc. Et donc le paradoxe, c'est que Trump à la fois n'est pas interventionniste, il veut se retirer de toutes les guerres, il va laisser les talibans reprendre le pouvoir, il veut se retirer d'Irak, il ne veut pas intervenir nulle part, et en ce sens-là, on peut dire qu'il a sans doute raison, mais en même temps, il veut vraiment avoir le meilleur appareil militaire, parce que les ventes d'armes, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, ce sont des emplois qui sont bien répartis sur l'ensemble du territoire, et donc là aussi, Trump est très cohérent, c'est-à-dire qu'on se moque toujours de lui en disant, il y a deux personnages, il y a le Trump, un peu le clown, ou l'animateur télévisé qui fait le clown, mais en fait il ne faut pas se moquer de lui parce qu'il est très cohérent dans sa politique et effectivement l'achat de systèmes militaires américains, ça fait des emplois et ça fait tourner l'industrie américaine.
Est-ce qu'on peut parler François Clémenceau, Marie-Cécile Nave, finalement de militarisation accrue des relations internationales? François Clémenceau.
Par l'augmentation des budgets militaires, c'est mécanique. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, justement, Donald Trump choisit de dépenser de plus en plus pour ses équipements militaires. Il faut dire aussi que certains pans de son armée en avaient besoin, notamment par exemple la marine américaine, qui n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour rester suffisamment moderne pour pouvoir éventuellement affronter l'ennemi en mer, et notamment dans les eaux asiatiques. Mais en même temps, il y a de moins en moins de militaires américains en Europe, il n'y en a plus en Syrie, il les retire d'Afrique, il ne les remplace pas forcément par des jeux de chaises musicales pour aller déplacer ses troupes en fonction des endroits où la menace pourrait être plus précise. Et le seul, finalement, terrain où il essaye de montrer qu'il est fort, qu'il a une armée capable de se battre, c'est en Asie et c'est face à la Chine. Et en fait, quand on regarde l'évolution des budgets de la seule marine américaine dans les eaux du Pacifique, là où ça a été renforcé, là où il y a plus d'hommes, plus de troupes, plus d'avions, plus de porte-avions, plus de croiseurs et plus d'activités d'exercices militaires avec les alliés de la région, c'est dans cette région du monde. Pourquoi ? Parce que pour le coup, et de ce point de vue-là, les démocrates américains partagent à peu près le même diagnostic, c'est qu'il y a un danger chinois, pas tellement contre les États-Unis, au sens physique du terme, mais d'hégémonie, d'installation, de relais, les routes de la soie, une sorte d'impérium qui a besoin finalement de relais de croissance partout en Asie et au-delà. Obama avait compris l'importance de l'enjeu, il avait cette stratégie d'endiguement. Trump va encore beaucoup plus loin, c'est la confrontation. Et quand vous regardez le nombre d'incidents militaires qu'il y a aujourd'hui entre les Américains et les Chinois dans cette zone du monde, oui, c'est inquiétant. Et en même temps, on ne peut pas dire que les Chinois non plus fassent des efforts extraordinaires pour diminuer cette tension-là. Au contraire, on pousse le bouchon à chaque fois de plus en plus loin.
Alors effectivement, on constate que Pékin et Washington s'éloignent de plus en plus. Est-ce que finalement, l'illusion d'un duo sino-américain menant le système international est aujourd'hui définitivement enterré? Marie-Cécile Nave.
Non, c'est pas enterré, c'est même un des scénarios tout à fait sérieux. On a l'impression que la seule véritable puissance qui tient tête aux États-Unis, d'une part, et qui stratégiquement voit tous les avantages qu'elle peut tirer de la diplomatie très transactionnelle, très unilatérale de Trump, c'est la Chine et l'Union européenne. Elle hésite à affirmer une autre manière de voir les choses. Elle hésite à contrecarrer les États-Unis et sur l'Iran, par exemple, sur la question des entreprises européennes en Iran. Le face-à-face États-Unis-Chine, c'est un des scénarios très forts pour les années à venir sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et aussi sur le soft power, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, sur l'influence en Afrique, sur des sujets culturels, sur les nouvelles technologies, la 5G. Et on le voit que Trump, il sent cette menace, il veut interdire TikTok, il veut interdire certaines nouvelles technologies chinoises aux États-Unis. Mais évidemment, il y a des lois, il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre tout seul, il y a des enjeux économiques forts, il ne peut pas non plus s'asseoir dessus. Donc ça peut être aussi un rapport de force, des influences qui se concurrencent sur autre chose que le hard power. Il y a le hard power évidemment, mais il y a aussi l'économie, il y a aussi les nouvelles technologies, il y a aussi le soft power. Et tout ceci est très complexe, mais un duel, un face-à-face sino-américain, oui, ça fait partie des hypothèses fortes.
Pascal Boniface, sur le face-à-face sino-américain, est-ce qu'il va rester un face-à-face?
Oui, c'est mal parti pour que ça s'arrange, parce que le seul élément de la politique de Trump qui est approuvé par les démocrates, y compris par Joe Biden, c'est l'hostilité à la Chine. Biden, s'il est élu, ne reviendra pas sur le fait que la Chine est un rival, parce que pour les États-Unis, être délogé de la première place mondiale qu'ils estiment être la leur naturellement de par l'histoire et de par leurs valeurs, c'est tout à fait insupportable. Même quelqu'un comme Soros, qui a dépensé des millions de dollars pour empêcher la première élection de Trump, approuve Donald Trump sur l'hostilité à la Chine. Et il y a à la fois un mélange, on met les droits de l'homme en avant, mais c'est pas vraiment les droits de l'homme, parce que sur d'autres points, Trump s'arrange très bien. Arabie Saoudite, il vaut mieux être quand même chinois que coréen du Nord, et Kim Jong-un est considéré comme un ami par Donald Trump. C'est le fait que depuis 1945, les États-Unis sont la première puissance mondiale, qu'ils estiment qu'ils ont une destinée manifeste depuis au moins le milieu du 19e siècle, et qu'en fait, si on considère qu'on s'intéresse à l'actualité quand on a 15 ans, les Américains de moins de 90 ans ont toujours vécu dans le premier pays du monde, et ils n'ont aucune envie d'être délogés par un pays qui est communiste et asiatique. Et donc ça, c'est angoissant pour les États-Unis. Nous, on n'est pas angoissés d'être dépassés économiquement par la Chine, mais eux, le fait d'être dépassés par la Chine, c'est angoissant. Et en 2001, quand la Chine adhère à l'OMC, elle fait 10% du PIB des États-Unis. L'an dernier, elle faisait 65%, donc le rattrapage est bon. Et comme cette année, les États-Unis vont voir un recul de 10% de leur PIB et que la Chine va avoir une croissance zéro, ils vont passer en un an de 65 à 75% du PIB américain. Donc c'est vrai qu'ils ont la trouille.
François Clémenceau.
C'est tout à fait juste comme vision des choses. Il y a cette compétition en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Trump ne met pas finalement le débat sur les droits de l'homme, même si son ancien conseiller Steve Bannon est extrêmement présent sur le dossier chinois. Il a même créé une chaîne de radio pour ça. Il est très présent sur le plan médiatique. Il est conseillé par un dissident chinois qui lui donne des millions de dollars. Sur le thème des droits de l'homme, regardez ce qui se passe, les Ouïghours, Hong Kong, Taïwan, c'est insupportable, c'est le communisme qui va dévorer le monde entier. Mais en fait, dans le discours de Trump, c'est pas ça. Dans le discours de Trump, c'est la puissance. Est-ce que les États-Unis, qui veulent être great again, peuvent se permettre d'être dépassés, mais pas seulement dépassés, rivalisés sur chaque terrain de jeu, et surtout sur le terrain technologique? Parce que cette histoire de 5G, au-delà de l'aspect purement sécuritaire, est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce que ça porte atteinte à la santé des gens ou à l'environnement? Non, la vraie question, c'est pourquoi les États-Unis ont raté le rendez-vous de la 5G? Pourquoi ce n'est pas les États-Unis qui ont inventé cette technologie-là et qui l'ont même développée? Comment se fait-il que c'est la Chine qui est en train de travailler sur la 12G et pas les États-Unis? Et donc, cette prise de conscience que la Chine, après avoir beaucoup volé les brevets dans le monde entier, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu des vols de propriété industrielle colossaux, mais comment se fait-il que les États-Unis n'aient pas gardé ce leadership dans la créativité alors que ils l'ont eu si longtemps, l'informatique, les nouvelles technologies, c'était les États-Unis? Et là, je crois qu'il y a eu quand même une sorte d'orgueil blessé de la part des Américains et ils se sont dit, ça n'est plus possible.
Vous écoutez RFI, géopolitique.
Je propose que sur ces questions, on passe à autre chose maintenant, si vous le voulez bien, c'est-à-dire qu'on se projette à l'après 3 novembre, voire après 10 novembre, étant donné que, comme on le sait, le vote par correspondance, chaque État aux États-Unis gère cette question et des bulletins vont parvenir au-delà du 3 novembre. Enfin, on reviendra bien sûr dans ces détails dans d'autres éditions de géopolitique. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir un tout petit peu sur un Trump acte 2, si Trump est réélu en novembre prochain. Est-ce que un Trump acte 2 peut être plus soft que le premier, c'est-à-dire que le président ne sera plus stressé à l'idée d'être réélu? Il le sera, et voilà, est-ce qu'on peut imaginer des changements à l'échelle internationale? Et si Trump n'est pas réélu, que Biden l'est, Joe Biden, est-ce qu'il pourra, le démocrate, détricoter ce qui aura été fait par Donald Trump? Pascal Boniface.
Si Trump est réélu, on peut penser que même l'ONU pourrait être en danger. Même l'ONU. Parce que il pourrait nommer quelqu'un qui bloque le système, peut-être pas se retirer, quoique tout peut être envisagé, mais en tous les cas, l'ONU serait bloquée et l'OMC risque de disparaître. Donc ça serait vraiment des attaques encore plus récurrentes et fortes contre toutes les institutions multilatérales. Si Biden est élu, c'est un peu Obama a réparé certaines choses que George Bush a fait, mais il n'a pas pu tout réparer. C'est-à-dire que le système international, c'est pas une ardoise magique ou un film qu'on peut rembobiner. Les dégâts qui ont été causés font des effets même quand quelqu'un vient réparer les dégâts. Ils ont quand même fait des choses. Alors Biden probablement reviendrait sur l'accord de Paris puisque Biden est avant tout le vice-président d'Obama et les gens vont plutôt voter par nostalgie qu'Obama que par enthousiasme pour Biden ou par répulsion pour Trump. C'est ça le vote Biden. Il reviendrait certainement sur l'accord nucléaire iranien, il l'a dit. Il reviendrait peut-être sur l'UNESCO mais il ne reviendrait pas sur une politique agressive pour la Chine. Moi je pense que les Chinois votent plutôt Trump que Biden. Le slogan de Trump, c'est « If you want to stop China, stop Biden ». Mais en fait, pour Pékin, Trump, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau parce que tout est permis avec lui et Biden serait plus rationnel dans l'affrontement avec la Chine. Et Biden ne remettrait pas l'ambassade à Tel Aviv, il la garderait à Jérusalem, il garderait à peu près la même politique au Proche-Orient. Et par rapport aux Européens, il aurait un discours moins brutal, moins corrosif, moins agressif. Il essaierait un peu, justement, par rapport aux Chinois, de réparer un peu l'axe entre l'Europe et les États-Unis, même si, une fois encore, il n'aura pas une politique tout à fait multilatériste. N'oublions pas que l'amende de 9 milliards de dollars infligée à la BNP, c'était sous Obama, et que les législations extraterritoriales américaines continueront d'exister. Donc, il y a vraiment les deux scénarios. Effectivement, Trump, il va continuer à creuser, à miner le système international pendant 4 ans, parce que son obsession, ça sera l'héritage, et effectivement, la marque qu'il va laisser dans l'histoire. Et je crois qu'il n'a pas conscience des effets à long terme, de où il se moque des effets à long terme. Et Biden viendra réparer les choses. Et là, peut-être que pour les Européens, il y aura une occasion pour s'affirmer un peu plus, pour dire à Biden, OK, on est d'accord pour faire front commun avec la Chine, mais il faut nous traiter comme des alliés. Il faut arrêter de nous traiter comme des vassaux ou comme des gens qui doivent uniquement obéir. Mais très franchement, je crois qu'il y a un double danger en cas de réélection Trump pour la démocratie américaine, le droit des femmes, le droit des minorités. Il va vraiment hystériser encore plus le débat. Enfin, ça sera les États désunis fortement et avec effectivement un système où les Chinois vont pouvoir avancer très tranquillement parce que les États-Unis seront totalement répulsifs.
Marie-Cécile Nave.
Oui, aucune raison de penser que ça va s'adoucir dans la diplomatie américaine si Trump est réélu. Au contraire, il n'aura plus rien à perdre, donc il va poursuivre ce qu'il a entamé. Et je crois qu'il faut garder aussi en tête que lui a en tête l'après. Et l'après, c'est revenir au business, qu'il n'a jamais vraiment abandonné. D'ailleurs, on verra d'ailleurs les procès qui vont lui être intentés quand il aura quitté la Maison-Blanche pour conflit d'intérêts pour lui, pour ses enfants et toute la Trump Organization dont il n'a pas quitté les rênes. Et donc il y a des enjeux de business, il faudra surveiller ça s'il est réélu, tous les choix qu'il fera en matière de politique étrangère qui seront liés à des enjeux de business, particulièrement avec l'Arabie Saoudite, avec la Russie évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup de zones d'ombre à ce niveau-là. Et puis Trump, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi un style de leadership. Ça va laisser des traces, soit parce que, comme le disait François Clémenceau, ça fait des émules, ça en inspire d'autres, soit parce qu'il va y avoir aussi une volonté d'aller contre ça, de produire une manière de manager, une manière de gouverner, une manière de discuter avec les autres qui soit pas dans un style de domination, dans un style très vertical. Et là-dessus, Biden, on voit que il a cette envie d'être plus dans la coopération, le dialogue, l'écoute, il le dit. Bon, c'est aussi un peu son storytelling de campagne, donc on verra s'il est élu, s'il le met vraiment en place. Mais je crois qu'il y a une attente aussi de la part de son électorat et des alliés traditionnels des États-Unis comme l'Europe et peut-être d'autres dans le monde, de revenir à, peut-être pas nécessairement comme Obama, qui était un juriste, un homme de compromis, de dialogue, etc. Mais en tout cas, de rompre avec un style de domination, de prédation qui est celui de Trump et à propos duquel il y a de fortes attentes dans le monde, mais aussi aux États-Unis, au sein des États-Unis, dans l'électorat, dans la société civile et dans le Parti démocrate. Et dans le Parti démocrate, ils vont aussi pousser en ce sens.
Alors, même question, François Clémenceau, comment voyez-vous un Trump acte 2 ou un Biden acte 1 ?
Je crois que la vraie question pour les deux, et c'est pas du tout par égocentrisme, mais je crois que c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du duel avec la Chine, mais quand vous vous mettez dans la tête de Trump et que pour lui, l'Europe et la Chine, finalement, ce sont deux adversaires, deux concurrents naturellement, mais deux adversaires. Quand on s'est rendu compte qu'il avait compris que ça n'était pas avec chacun des 27 pays européens qu'il fallait négocier commercialement, mais avec un seul interlocuteur, la Commission européenne, ce jour-là, il s'est rendu compte que l'Europe était une machine, et était une machine aussi à conquérir des marchés et à mener une concurrence économique à travers le monde. Donc, il prend l'Europe au sérieux, mais il la prend au sérieux comme un adversaire. Et quand il dit à certains de ses interlocuteurs « Vous êtes plus dangereux que la Chine » ou « Vous portez atteinte aux États-Unis de façon plus sévère que la Chine », je crois que c'est ce qu'il pense vraiment. Et donc nous, Européens, la vraie question, si Trump est réélu, c'est de se dire « Comment on va pouvoir gagner encore en autonomie ?» Pas seulement sur le plan stratégique, c'est ce qu'il y a de plus lent, mais aussi en réactivité par rapport aux mesures unilatérales que prend Donald Trump, notamment sur le plan commercial. Ça, c'est le vrai sujet. Et ce le sera aussi si Joe Biden se fait élire. Parce que non seulement, comme l'a dit Pascal, il va essayer de restaurer les liens qui ont été abîmés par la relation entre Trump et les Européens, mais parce qu'il va essayer de faciliter l'autonomisation de l'Europe, parce qu'il aura ses combats à mener ailleurs. Et il a besoin d'une Europe qui ne lui pose pas de problème. C'est ça le vrai sujet. Et on se rend compte que Trump, à force d'avoir ses deux fers au feu, l'Asie et l'Europe, ça l'affaiblit aussi en quelque sorte, parce que c'est très difficile à mener ces deux combats-là en même temps. Donc il faut espérer pour nous, Européens, que Biden soit à la présidence pour réparer ces liens et pour essayer de faire en sorte que l'Amérique priorise ces combats et laisse l'Europe continuer à grandir et à gagner en autonomie, parce que c'est ça aussi l'avenir des relations. Quand vous voyez aujourd'hui que l'Europe essaye d'avoir une position non pas neutre, mais de médiation finalement entre les États-Unis et la Chine, parce qu'on ne peut pas se permettre de se rallier à des comportements hégémoniques de part et d'autre. Il faut trouver une façon d'être européen. C'est extrêmement compliqué parce que tant que vous n'avez pas les moyens non seulement économiques mais aussi militaires pour pouvoir vous imposer, c'est un vrai défi pour nous Européens. Il faudra le gagner.
Une belle conclusion sur l'Europe. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci François Clémenceau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche et auteur du blog Trump Power. Merci aussi Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Marc Fichet à Nantes, Nathalie Laporte à Paris. À très bientôt.